Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 6 mars 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Nous exigeons l'arrêt de la guerre, le retrait des occupants de la bande de Gaza. C'est le titre de notre commentaire d'aujourd'hui. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Organisation de la coopération islamique, OCI, appelle à l'arrêt immédiat du génocide à Gaza. L'Iran confisque une cargaison de pétrole américaine dans le Golfe Persique. Et puis le Hezbollah met en garde Israël contre ses actes d'agression. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'OCI appelle à l'arrêt immédiat du génocide à Gaza. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération islamique, OCI, a mis en garde contre le risque de la poursuite du génocide et du nettoyage ethnique commis par le régime israélien dans la bande de Gaza. Dans leur communiqué final, les ministres des Affaires étrangères de l'OCI ont appelé à l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'enclave palestinienne. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI s'est focalisé sur l'offensive israélienne contre la bande de Gaza et la situation déplorable dans laquelle se trouvent les habitants de cette région assiégée. Lors de cette réunion, qui a eu lieu à Jeddah, en Arabie saoudite, le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré « Notre prise de position commune vis-à-vis du régime sioniste doit être efficace et décisive. Nous devons donc nous fonder sur les principes unificateurs du monde musulman. » Le ministre iranien des Affaires étrangères a ajouté que les États-Unis et le régime israélien devraient arrêter immédiatement la guerre et rouvrir les passages frontaliers pour que l'aide humanitaire soit transférée sans aucune contrainte dans toutes les zones de la bande de Gaza. Hossein Amir Abdollahian a affirmé que les sanctions, le boycott et la rupture des relations diplomatiques, économiques et commerciales étaient des moyens efficaces dont les États musulmans disposent pour faire pression sur Tel Aviv. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres ont chargé le secrétaire de l'OCI de mettre sur pied un observatoire des crimes du génocide et du déplacement forcé que le régime israélien pose aux Palestiniens de Gaza. Ce mécanisme juridique devra documenter les crimes israéliens et en transmettre des rapports aux médias. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal Ben Farhan a déclaré pour sa part que malgré l'aggravation de la crise humaine dans la bande de Gaza, le massacre de plus de 30 000 Palestiniens et la famine qui touche plus de 2 millions d'habitants de cette région surpeuplée La communauté internationale n'a pas du tout réussi à faire arrêter le génocide à Gaza par le régime de Tel Aviv qui détruit systématiquement toutes les infrastructures vitales de l'enclave palestinienne. Toujours en marge de la réunion ministérielle de l'OCI à Jeddah, le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré séparément le chef de la diplomatie saoudien, Faisal Ben Farhan, et le secrétaire général de l'OCI, Hissein Brahim Taha. L'actualité est dominée toujours par les crimes d'Israël à Gaza. L'Iran prévient de la colère de la jeunesse du monde contre Israël. Le président iranien Ibrahim Raisi a mis en garde contre le débordement de la colère de la jeunesse dans le monde contre les crimes israéliens dans la bande de Gaza. Lors d'une interview accordée mardi 5 mars à la télévision nationale algérienne et diffusée le lendemain, le président Raisi a déclaré « Aujourd'hui, l'oppression du régime sioniste a épuisé la patience non seulement des peuples de la région, mais aussi des peuples du monde entier. » Je pense que si cette situation persiste, la colère des jeunes de toutes les nations, que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou dans d'autres pays de différents continents, s'exprimera sous une autre forme, a-t-il prévenu. Le président iranien a évoqué la récente action d'un membre en service actif de l'armée de l'air américaine qui s'est immolé par le feu pour protester contre la guerre génocidaire menée par Israël dans la bande de Gaza, et les manifestations d'envergure qui ont eu lieu dans les pays européens en soutien aux Palestiniens. Il a regretté que ces revendications appelant à la fin des crimes d'Israël sont ignorées. Les gouvernements américains et britanniques ne veulent pas entendre la voix de leur propre peuple et des nations du monde et cherchent donc à étendre la portée de la guerre de Gaza, a-t-il expliqué. Israël a commencé sa guerre barbare soutenue par les États-Unis contre la bande de Gaza assiégée le 7 octobre après que le Hamas a mené son opération historique contre le régime occupant en représailles à ses atrocités accrues contre le peuple palestinien. Jusqu'à présent, le régime de Tel Aviv a massacré au moins 30 631 Palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants, et en a blessé 62 043 autres. Le bilan des journalistes tués depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 133. Un autre journaliste palestinien a été tué dans une frappe aérienne israélienne sur la bande de Gaza, portant à 133 le nombre de journalistes tués depuis le début de la guerre génocidaire d'Israël lancée le 7 octobre 2023. Selon le bureau des médias du gouvernement de Gaza, Mohamed Salameh, présentateur de télévision à Al-Aqsa, dirigé par le mouvement de résistance palestinien Hamas, a été tué mardi 5 mars dans le bombardement israélien contre sa maison à Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza. Il y a plus d'une semaine, des avions de guerre israéliens ont visé la maison du journaliste palestinien Mohamed Chirin Yari dans la ville d'Al-Zawaïda, le tuant ainsi que sa femme et sa fille. Le journaliste Moussab Abu Zayed, présentateur de la radio au Lit Coran dans la bande de Gaza, a également été tué dans une frappe aérienne contre son domicile dans le camp de Nusayrat, situé à 5 km au nord-est d'Deir el-Balah. Israël a également imposé un siège complet à la partie côtière, coupant le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau aux plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent, empêchant toujours les journalistes pour couvrir la situation de plus en plus critique et sa campagne génocidaire en cours dans la bande de Gaza. L'Iran confisque une cargaison de pétrole américaine dans le Golfe Persique. L'Iran a saisi une cargaison de pétrole américain dans le cadre d'un procès intenté par les familles de personnes atteintes d'une maladie cutanée rare et dont la vie est en danger en raison des sanctions inhumaines américaines. La cargaison de pétrole américain était transportée par l'Advantage Suite, battant pavillon des îles Marshall dans le Golfe Persique. Selon certaines informations, la confiscation a eu lieu suite à une décision de justice en faveur des personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse, EB ou de la maladie papillon. Dans leur plainte, les familles de personnes atteintes d'EB caractérisée par une extrême fragilité de la peau et des cloques provoquées mécaniquement ont réclamé des dommages et intérêts aux États-Unis. Les sanctions occidentales, en particulier celles imposées par les États-Unis, ont empêché une entreprise suédoise de vendre à l'Iran des médicaments contre ces maladies. Les États-Unis ont rétabli leurs sanctions contre l'Iran en mai 2018, après s'être retirés du PGAC, l'accord nucléaire de Vienne de 2015, signé entre l'Iran et les six pays, six grandes puissances, et approuvé par les Nations Unies. Les sanctions américaines ont privé les personnes atteintes de soins médicaux essentiels. Nombre d'entre elles souffrent de graves blessures et elles sont parfois soumises à des amputations ou trouvent la mort. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, exige l'arrêt de la guerre et le retrait des occupants de la bande de Gaza. Oussama Hamdan, l'un des dirigeants du Hamas, a déclaré que l'ennemi sioniste tergiversait sur la conclusion d'un accord, soulignant que le mouvement de résistance palestinien exigeait la cessation de la guerre et l'expulsion des occupants. Selon le Centre d'information palestinien, Hamdan a déclaré mardi, lors d'une conférence de presse, que l'ennemi n'avait atteint aucun de ses objectifs, ajoutant que son image est de plus en plus détruite de jour en jour. Voici des extraits des déclarations de hauts responsables du Hamas. Au cours des deux derniers jours, nous avons présenté notre approche et notre attitude et réitéré nos conditions de cessez-le-feu. Nous soulignons la nécessité d'un cessez-le-feu, du retrait complet des sionistes de la bande de Gaza et du retour des réfugiés dans leur foyer. L'ennemi continue de tarder à mettre en œuvre des plans et des initiatives visant à mettre fin à la guerre. L'ennemi utilise les crimes et les meurtres comme levier de pression sur le peuple palestinien pour l'empêcher de jouir de ses droits. Ce que l'ennemi n'a pas pu réaliser jusqu'à aujourd'hui sur le terrain, il ne réalisera jamais à la table des négociations. Tout échange de prisonniers ne sera possible qu'une fois la guerre terminée et toutes nos conditions remplies. Parallèlement à la flexibilité dont nous avons fait preuve pour préserver le sang de la nation, nous sommes également prêts à l'affrontement. Notre nation n'acceptera jamais aucun accord qui n'inclut pas l'arrêt de la guerre et la levée du blocus. La résistance continue de remporter de nouveaux succès, de préserver les sacrifices de la nation et de s'appuyer sur elle pour chasser les occupants. Le génocide contre le peuple palestinien se poursuit et l'ennemi s'obstine à cibler les convois humanitaires. Les aides aériennes ne répondent qu'à une petite partie des besoins des habitants de la bande de Gaza. Nous disons à Washington que l'arrêt de l'envoi d'armes au régime sioniste est plus important que l'aide aérienne à Gaza. Les pays arabes et musulmans doivent se mobiliser sérieusement pour mettre fin au génocide à Gaza. Nous appelons à la pression de la communauté internationale pour ouvrir les points de passage, l'acheminement d'aide à Gaza. L'ennemi ne cherche pas à arrêter la guerre et à libérer ses prisonniers.
Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette émission. Nous allons donc présenter l'émission Débat Et le sujet est la famine à Gaza. Donc tout de suite, je vais vous proposer un reportage qui résumera la situation humanitaire et sanitaire de Gaza. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités. Tout de suite donc, notre reportage.
Nations Unies préviennent qu'en l'absence de tout changement dans la guerre génocidaire en cours menée par le régime israélien contre la bande de Gaza, cette région est en passe de connaître une famine totale. James Laerk, porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA, a tenu ses propos lors d'une conférence de presse à Genève vendredi. Si quelque chose ne change pas, une famine est presque inévitable au vu des tendances actuelles, a-t-il averti, avant d'indiquer « Une fois qu'une famine est déclarée, il est trop tard pour trop de gens. Nous ne voulons pas en arriver à cette situation et nous avons besoin que les choses changent avant cela », a-t-il souhaité. Nous devons examiner ce que de plus en plus de voix, de plus en plus fortes, disent à propos de la situation de la sécurité alimentaire dans la bande de Gaza, en particulier dans le nord, a-t-il ajouté. Cela intervient un jour après que le chef des droits de l'homme des Nations Unies s'est dit consterné face à la brutalité avec laquelle le régime israélien menait la guerre. Il semble n'y avoir aucune limite, aucun mot pour décrire les horreurs qui se déroulent sous nos yeux à Gaza, a déclaré Volker Türk au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Jusqu'à présent, plus de 30 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tués à la suite de l'attaque militaire israélienne. Israël a mené sa guerre génocidaire contre Gaza le 7 octobre après que le groupe de résistance palestinien Hamas a lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre l'entité usurpatrice en représailles à ses atrocités accrues contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et dans les territoires occupés. Parallèlement à la guerre, le régime sioniste a imposé un siège complet à la bande surpeuplée ayant coupé le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau aux plus de 2 millions de Palestiniens qui y vivent. Le système de santé de la bande de Gaza est à genoux, alerte Christian Lindmeier, le patron de l'Organisation mondiale de la santé OMS, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, notant que la moitié des 36 hôpitaux de l'enclave ne fonctionnait plus du tout. Tous les canaux vitaux à Gaza ont été plus ou moins coupés.
Donc, nous revoilà dans les studios. Tout de suite, nous allons annoncer nos invités. Première été, vous la connaissez, c'est Mme Aïssar Midani. Mme Aïssar Midani, ravie de vous avoir avec nous, experte surtout de la région du Moyen-Orient. Merci encore d'accepter nos invitations à nos débats.
Merci de votre invitation. Bonjour à votre équipe et bonjour à votre invité.
Alors, notre deuxième invité étant M. Bernard Cornu. Alors, depuis le 7 octobre, nous sommes ensemble depuis le début. M. Cornu, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Malheureusement, plus les semaines passent, plus il y a de moins en moins d'espoir de voir la situation s'améliorer. Et avec le mois du Ramadan, ça devient de plus en plus préoccupant. Monsieur Cornu, ravi de vous avoir avec nous en tant qu'invité.
Bonjour à tout le monde.
Alors, dans mon studio, je n'entends aucun son de la part de nos invités. Alors, est-ce que les choses peuvent se régler? Alors, Madame Aïssar Midani, alors j'ai envie de parler de deux choses qui peuvent être, qui sont différentes, mais qui peuvent se relier. Nous savons que les organisations internationales, les organismes humanitaires ont indiqué que la famine était pratiquement là. Quand on parle de famine, on parle surtout d'un organisme humain qui ne mange plus depuis plusieurs jours et donc dont certains organes ne fonctionnent plus comme il le faut. Donc, arrivé à un certain point, si on le sait d'un point de vue médical, on ne peut plus sauver la personne même si elle est nourrie. C'est vers là que va Gaza, que vont les Gazaouis. Et de l'autre côté, on a aujourd'hui, depuis ce lundi, une réunion de l'OTAN dans le nord, dans le nord de l'Europe. Et 20 000 soldats ont été regroupés, 20 000 soldats. C'est 20 000 soldats qui pourraient sauver des vies à Gaza, j'ai envie de dire, qui pourraient en tout cas, arrêter le conflit, stabiliser les choses au niveau des voies humanitaires. On a également le fait que l'OTAN ait soi-disant été créée pour éviter les dangers mondiaux. Alors, Madame Issarounani, entre les deux événements qui se passent aujourd'hui, à ce lundi, qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
Écoutez, de toute façon, l'entreprise génocidaire israélienne, elle est réelle et ils ne cachent pas leur jeu. Donc, leur objectif, c'est effectivement non seulement affamer, mais tuer toute la population, ou alors la provoquer un exode et un exil total de cette population. L'État d'Israël l'a affirmé à plusieurs reprises par la bouche de son premier ministre Netanyahou, appuyé d'ailleurs sans compter par les États-Unis, qui sont aussi un autre État génocidaire. Il faut quand même rappeler que depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à présent, il y a des millions de personnes qui ont été tuées dans le monde par les entreprises américaines. Alors, cette réunion des soldats, effectivement, de l'OTAN, etc., elle n'est jamais faite pour sauver des vies, et c'est toujours pour agresser, pour tuer, pour affamer. Il faut quand même rappeler que la politique américaine par excellence est celle de ce qu'ils appellent des sanctions, c'est-à-dire des mesures coercitives au peuple, où on arrête on casse tout, en fait, on crée un blocus sur la population en but de l'affamer, de l'anéantir, en fait, tant qu'elle ne se met pas à genoux. Alors, le problème des Palestiniens, c'est qu'ils ne se mettent pas à genoux et que les Américains leur en veulent à mourir, puisqu'ils continuent à lever la tête depuis 100 ans. Ils exigent effectivement la libération de leur territoire, de la Palestine qui leur appartient, qu'ils ont leur terre, et que les Israéliens ont usurpé par l'appui d'ailleurs de tous les pays, des pays impérialistes américains, britanniques et français, et maintenant allemands. Ça ne plaît pas du tout. Donc, ils sont prêts à tuer tout le monde sans problème. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que particulièrement sont visées les femmes et les enfants, qui sont aussi les femmes qui sont non seulement qui perpétuent l'espèce, mais aussi qui perpétuent la culture du pays, la culture de l'histoire, et qui raconte l'histoire de la Palestine, qu'ils n'ont pas oublié, comme souhaitaient Golda Meir et Ben Gurion, et que de plus en plus les générations continuent à vouloir l'indépendance de leur pays, à se battre pour cette indépendance. Et voilà qu'en plus, aujourd'hui, j'ai envie de dire quand même, avec la complicité des pays environnants, on accomplit un génocide tout en faisant des parodies et des parades de balancer de la farine par le ciel, mais peut-être pour c'est la feuille de vigne qui cache leur crime et qui cacherait leur crime et leur complicité. Donc franchement, c'est un génocide avec complicité à la fois des instances internationales qu'on appelle soi-disant pour sauver les gens, mais qui sont aussi complices par leur inaction. C'est bien de constater la famine, c'est bien de dire « Ah là là, les hôpitaux ne fonctionnent plus », mais quand les Israéliens bombardaient les hôpitaux et ont décidé de créer la famine, ces mêmes organisations n'ont protesté que par des petites voix et n'ont rien fait, ne font rien, parce qu'ils sont complètement abolis et anéantis. Ils sont aussi soumis au diktat américain.
Merci, Madame Aïssar Meidani. Alors, Monsieur Cornu, vous qui pensez que les relations entre les pays, les États doivent exister et doivent se poursuivre, qu'il y a des systèmes et des outils existants au niveau international pour bloquer un pays dans sa mauvaise voie, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit à Madame Aïssar Meidani, aujourd'hui, il y a la réunion otanesque, là, dans le nord de l'Europe, où 20 000 soldats ont été regroupés. Comme j'ai dit, quand on sait quelle est la situation à Gaza et qu'on sait que ce sont les Israéliens et l'entité sioniste qui bloquent les voies des camions humanitaires, ces 20 000 soldats seraient beaucoup plus utiles pour donner de la nourriture que d'aller faire des exercices qui ne vont que créer plus de tensions dans la région, notamment en Ukraine et en Russie. Monsieur Bernard Cornu, en vue de la situation très hypocrite, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que là, on ne peut plus parler que juste du mot hypocrisie.
Oui, plus que des soldats, ce seraient des policiers internationaux qui seraient utiles pour faire appliquer par la force les décisions de justice, les ordonnances de justice qui ont été déjà prises par la différentes cours de justice, la Cour internationale de justice, et bientôt la Cour pénale internationale qui a été saisie aussi par de nombreux avocats internationaux, par l'État de Palestine lui-même qui a droit. Mais malheureusement, ces cours de justice n'ont que les moyens du Conseil de sécurité, donc qui sont bloquables par les grandes puissances, par les États-Unis, alors qu'il faudrait créer justement une police internationale pour pouvoir appliquer ces décisions de façon juste et rapide, afin de pouvoir mettre la justice dans les faits. Actuellement, c'est vrai que la justice internationale a beaucoup progressé dans les paroles, dans les décisions de justice, dans les dossiers. C'est très clair, les documents de la Cour internationale de justice sont très clairs, très référencés, sont difficilement contestables pour la plupart des points, mais ces cours de justice n'ont pas encore les moyens de faire appliquer leurs décisions. Donc j'espère que ces moyens de justice vont progresser, c'est par là qu'il faut avancer certainement, et il faudra aussi, je pense, imposer une réforme de Conseil de sécurité, puisque actuellement il n'y a aucune chance que les résolutions sous chapitre 7, qui sont les seuls moyens contraignants qui peuvent être appliqués par la force dans le cadre du droit international de la Charte des Nations Unies, soit applicable, parce que les Américains mettront encore leur veto. Donc comme ils sont complices depuis le début, depuis plus de 100 ans, dans la création d'un foyer national juif en Palestine afin d'avoir une base aérienne pour contrôler l'ensemble du Moyen-Orient qui est riche en pétrole et en gaz, et tous les gens stratèges le savaient à l'époque, il y a plus de 100 ans, parce qu'il y a des connaissances géologiques, des connaissances, et l'Irak notamment, et le sud de l'Iran, on savait qu'il y avait des gisements de pétrole affleurants, donc tout ceci était connu, et tous les gens savaient, à l'époque où on a inventé le moteur diesel, les moteurs des sous-marins, très rapidement, les choses se sont développées très rapidement, et les stratèges ont tout de suite compris que la Mésopotamie et le Golfe étaient une région stratégique pour le reste des siècles à venir.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, Madame Aïssar Meidani, vous avez connu la guerre en Syrie, vous avez connu donc cette hypocrisie, cette volonté de l'OTAN d'être présent de plus en plus fort dans la région sous prétexte de terrorisme, de groupuscules terrorisme. Et vous savez comment les choses se passent en termes de conflit, hein, plus de 500 000 morts directes en Syrie, indirectes beaucoup plus, le double voire le triple. Les chiffres ne sont pas encore nets par rapport à ce qui s'est passé en Syrie, mais on est sur du 500 000 sûr. On parle du double ou du triple par rapport à des morts indirectes, donc les famines, les maladies, les sanctions. Madame Meidani, au vu de la session, y a-t-il encore un espoir que les pays se réveillent et sanctionnent avant le Ramadan, sanctionnent donc l'entité sioniste pour le pousser finalement à faire venir les camions au sein des territoires gazaouis? Est-ce que c'est possible encore? Est-ce qu'il y a encore l'espoir à ce niveau-là?
D'ailleurs, je vous remercie d'avoir parlé de la Syrie, parce qu'il y a une famine aussi qui est en Syrie, qui est en silence, hein, puisque les États-Unis, avec l'aide de ses proxys avec Israël, ils ont aussi exercent un blocus catastrophique sur la Syrie pour affamer. Après avoir incendié la culture, après avoir détruit des hôpitaux, après avoir fait tout pour faire partir aussi les médecins du pays. Et en fait, heureusement, la Syrie ne s'est pas effondrée et donc elle continue à vivre avec ses moyens, les moyens que le pillage des Américains lui laisse, en fait, parce que je rappelle quand même qu'il pille tout le pétrole syrien et tout le blé syrien. Donc, en fait, il nous laisse très peu de moyens de subsister. Que maintenant, effectivement, il pratique la même chose vis-à-vis de Gaza, vis-à-vis de la Palestine entière, parce qu'il ne faut pas oublier la Cisjordanie, qui est aussi sous blocus et sous contrôle des forces israéliennes, malgré le fait qu'ils aient signé les accords d'Oslo où la Cisjordanie devait être autonome sous la direction de l'autorité. Mais en fait, c'est Israël qui y règne et qui détruit à son bon vouloir tout ce qu'elle veut détruire, y compris aussi les cultures et les maisons et les hôpitaux. Donc ça, c'est aussi, mais à mon avis, il n'y a absolument, enfin, le Ramadan est quand même dans une semaine et il n'y a absolument aucun moyen de stopper de stopper effectivement cette entreprise de sape et de destruction, je dirais, de génocide visant à affamer la population en Palestine. Parce que, en fait, hein, et si ça se fait, ces aides hein, au compte-gouttes, etc., c'est pour garder les gens vivants, mais sans aucune force. Hein. Donc, juste pour leur permettre de vivre hein, en les mettant à genoux. Et les spectacles des attaques, en fait, par les avions israéliens et par les chars israéliens, des personnes qui viennent chercher l'aide alimentaire qui vient, le peu d'aide alimentaire qui a pu filtrer et qui a pu arriver, ça en dit long sur la criminalité de cet État génocidaire et sur sa volonté d'anéantir effectivement la population, mais sa volonté sadique aussi. Ce n'est pas tuer, mais c'est une mort lente qu'ils veulent imposer au peuple palestinien qui ose dresser sa tête face aux diktats israéliens et américains pour revendiquer l'indépendance de son pays.
Merci Madame Issari Midani. Monsieur Cornu, vous avez parlé donc d'une police internationale, mais il en existe une. En tout cas, elle a déjà été réunie. On parle des casques bleus. Il y a déjà eu donc une réunion de soldats spécialisés pour aller notamment donc atténuer les choses et séparer les deux groupes qui se faisaient la guerre. Donc ce ne n'est pas quelque chose de nouveau dans le système international. Et pourtant, on n'en est qu'aujourd'hui à parler d'éventuelles sanctions contre l'entité sioniste. On est quand même à 150 jours de conflit, dont plus de la moitié avec des hôpitaux en difficulté, voire pratiquement inexistants. Donc détruit. On est vraiment détruit. Enfin, quand je dis inexistant, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de matériel, puisque le matériel, ça fait depuis longtemps qu'il n'existe plus. Donc, Monsieur Cornu, comment on peut en arriver à une police internationale quand aucun pays ne veut bouger?
Oui, effectivement, les casques bleus sont un moyen. Ils sont impliqués à la frontière au sud du Liban. Ils sont impliqués ailleurs aussi, dans le Golan occupé, enfin dans certaines parties du monde. C'est effectivement l'article 22 de la charte qui permet, et ceci a été évoqué d'ailleurs récemment par un avocat sur votre chaîne, cet article permet au secrétaire général de créer des organes subsidiaires dans le pays. Toujours il y a le veto possible des Américains, donc voilà, ça serait dans ce cas-là, il y a peu de chances que ça se passe, sauf si on arrivait à trouver les termes qui soit acceptable pour les Américains sous pression d'autres membres du Conseil de sécurité et sachant que la situation est effectivement actuellement terrible, que, comme ça a été dit dans votre reportage, beaucoup d'États occidentaux savent que maintenant ils sont jugés comme complices de la poursuite d'un génocide, puisque ceci a été déclaré, et que la Convention sur le génocide demande à chacun de dénoncer ces actes-là et de dénoncer les pays complices de la poursuite de ces génocides. Donc, le crainte de la justice va peut-être influencer, commencer à influencer, et c'est que s'il y aura un outil d'application indépendant de ces décisions de justice que les dirigeants de nos pays occidentaux pourront s'exécuter. Actuellement, comme vous l'avez évoqué, ils font des actions de propagande en jetant à très grands frais quelques tonnes de victuailles par les airs, ce qui est une humiliation pour les Palestiniens. Plusieurs Palestiniens ont dit « nous ne voulons pas de cette aide-là, nous voulons que les camions passent, nous voulons la liberté, nous voulons l'indépendance. Voilà. »
Ah, il faudrait...
Ouais, les images sont quand même assez inhumaines.
Les pays environnants... Pardon.
Allez-y, Madame Idani.
Oui, je pense qu'il faudrait que les pays environnants fassent effectivement pas seulement pression, qu'ils fassent pression contre Israël pour ouvrir déjà les passages, parce que Rafah est quand même en terre égyptienne et que c'est l'État égyptien qui dirige normalement le passage de Rafah. Il y a aussi d'autres passages et on voit quand même la Jordanie et l'Égypte et les Émirats arabes unis qui continuent à envoyer des vivres et qui continuent à envoyer des vivres à Israël et pas à Gaza. Il faudrait que ces pays-là se sentent concernés effectivement par ce génocide et par cette grande tuerie du peuple palestinien, d'une part. Ça, d'autre part, il faudrait aussi que les pays au niveau de l'ONU rejettent la dictature américaine sur le Conseil de l'ONU, déjà, et que les votes soient plutôt à la majorité des pays et pas du tout avec ce veto qui est antidémocratique et qui est dictatorial, qui permet aux États-Unis d'anéantir toutes les décisions. Il faut quand même rappeler que 153 pays qui étaient pour le cessez-le-feu à Gaza et que les États-Unis ont fait fi de tout ça, qu'ils continuent à constituer un pont aérien aussi de munitions et d'armement d'aide à Israël. Donc en fait, aujourd'hui, ceux qui font le génocide, ce n'est pas seulement Israël, mais c'est Israël et les États-Unis, avec tous les laquais des États-Unis dans la région. Il faut le dire quand même. Et malheureusement, alors que ce sont des pays arabes, ils ne se sentent pas capables de s'opposer à ce génocide en s'opposant au diktat américain.
Merci, Madame Aïssa Milani. Merci, Monsieur Bernard Cornu, pour la participation à ce débat, à votre expertise, également votre point de vue et à votre soutien également, parce que là, on doit parler de soutien à la cause palestinienne. C'est ici que se finit notre débat. On présente toutes nos condoléances aux familles palestiniennes touchées par la situation, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, parce qu'on n'oublie pas qu'en Cisjordanie aussi, il y a des morts, il y a des emprisonnements injustes, il y a des souffrances. Les deux parties de la Palestine souffrent et Presse TV se joint aux condoléances mondiaux pour la cause palestinienne. Dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat. Et on espère tous qu'au prochain débat, comme depuis le 7 octobre, les choses s'améliorent. Au revoir.
Ici, le Moyen-Orient.
Chers amis auditeurs, merci d'être avec nous pour un autre programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. le leader a salué la participation des Iraniens aux élections malgré les complots ennemis. Mardi 5 mars, le leader de la révolution islamique a planté 3 jeunes arbres à l'occasion de la semaine des ressources naturelles et de la journée nationale de l'arbre. Par la même occasion, le leader a remercié les Iraniens pour leur participation aux récentes élections législatives malgré les complots ennemis. Pendant près d'un an, les ennemis de l'Iran islamique ont tenté de dissuader le peuple de voter et de faire dérailler les élections. La nation iranienne accomplit à la fois un devoir social et civilisationnel et un djihad, puisque sa participation aux élections législatives a neutralisé la campagne d'intoxication des ennemis sur le récent scrutin, a dit l'Ayatollah Khamenei. Le peuple iranien s'était rendu aux urnes et malgré la propagande partielle des ennemis, il a créé une grande épopée. Je remercie également les responsables impliqués dans la tenue des élections, les responsables de la sécurité et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la tenue du scrutin, a conclu le leader de la révolution islamique. Le plus haut responsable iranien des droits de l'homme a fustigé les pays qui ont imposé des sanctions illégales à la nation iranienne, appelant à ce qu'ils soient tenus responsables de leurs crimes contre l'humanité. Kazem Ghalib Abadi, secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, a fait ses remarques lundi 4 mars à l'université Alame Tabatabai de Téhéran, où s'est tenu un procès fictif simulant des procédures contre ceux qui appliquent des interdictions unilatérales et ceux qui les respectent. Les sanctions constituent des crimes contre l'humanité, car elles violent le droit au développement, à la prospérité, à l'éducation, au logement, etc., a-t-il déclaré. Ceux qui imposent des sanctions étendues à l'Iran commettent des crimes contre l'humanité et devraient en être tenus responsables, a-t-il ajouté. Malgré les capacités du pays dans le domaine médical, l'Iran a été témoin des conséquences mortelles des sanctions inhumaines pour les groupes vulnérables de patients. Il a notamment évoqué le cas de patients atteints de maladies rares comme la maladie papillon. Il a également déclaré que les mesures coercitives unilatérales sont considérées comme des armes de guerre en raison de leurs impacts considérables sur les pays cibles. Le responsable iranien des droits de l'homme a en outre déclaré que les États-Unis exerçaient des pressions sur divers pays afin de les emmener dans le cycle de sanctions secondaires contre l'Iran. Parmi les intervenants, lors de la séance de lundi, figurait Alena Douhan, rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'impact négatif des mesures coercitives unilatérales sur les droits de l'homme. Elle a prononcé un discours au tribunal fictif par vidéoconférence. L'expert des droits de l'ONU s'est rendu en Iran du 7 au 18 mai 2022 et a ensuite publié un rapport. Elle y déclare que les sanctions anti-iraniennes ont affecté presque tous les aspects de la vie du pays et a appelé à leur levée. La livraison de médicaments et d'équipements médicaux à l'Iran a été gravement compromise par les effets des sanctions, a-t-elle noté. Celles-ci constituent de sérieux obstacles à la jouissance du droit au meilleur état de santé possible par tous les Iraniens. L'ancien président américain Donald Trump a retiré Washington de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 en mai 2018 et a imposé de sévères sanctions économiques à Téhéran dans le cadre de ce qu'il a appelé la campagne de pression maximale. Le successeur de Trump, le président Joe Biden, a conservé ses interdictions comme levier de pression. Le gouvernement palestinien dirigé par le Hamas dans la bande de Gaza a dénoncé l'attaque de jeudi du régime sioniste contre des Palestiniens affamés à Gaza qui attendaient l'aide humanitaire. Le bureau des médias du gouvernement palestinien a condamné dans un communiqué le lundi 4 mars la mort de plus de 110 Palestiniens lors des tirs israéliens sur une foule qui tentait d'atteindre un camion chargé d'aide dans la ville de Gaza. Lors de la guerre de Gaza, on assiste à une exacerbation de la famine, un renforcement du siège et un manque de volonté ferme de mettre fin au désastre humanitaire en cours, indique le communiqué. L'attaque israélienne de jeudi était la troisième du genre à être menée contre des Palestiniens en quête d'aide depuis la fin du mois dernier. Les forces israéliennes ont ouvert le feu en effet sur des Palestiniens attendant une aide humanitaire à proximité du rond-point Al-Naboulsi, situé au sud de la ville de Gaza. Au moins 112 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées. Le massacre a été vivement condamné par différents États et organisations internationales. Cependant, dimanche, l'armée israélienne a bombardé un autre camion humanitaire dans la ville de Deir al-Bala, dans le centre de Gaza, tuant et blessant de nombreux autres Palestiniens affamés qui s'y étaient rassemblés pour collecter des denrées alimentaires. Ces attaques surviennent alors que le bilan des morts palestiniens à la suite de la guerre génocidaire menée depuis le 7 octobre par leur régime a dépassé la barre des 30 500. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, a mis en garde contre une augmentation du nombre de décès d'enfants dans la bande de Gaza dans un contexte de manque de nourriture, d'eau potable et de services médicaux. Dans un message publié dimanche sur son compte X, l'UNRWA a déclaré que les enfants de la bande de Gaza meurent lentement sous les yeux du monde. Ce commentaire fait suite à la mort de 15 enfants des suites de déshydratation et de malnutrition à l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de la bande de Gaza. Dans un communiqué publié dimanche, le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf al-Rudra, s'est dit préoccupé par l'état de 6 autres enfants souffrant de malnutrition et de diarrhée à l'unité de soins intensifs de l'hôpital en raison de l'arrêt du générateur électrique, de l'oxygène et du manque des services médicaux. Les Nations Unies ont averti que les décès d'enfants augmenteraient rapidement à Gaza si les livraisons d'aide humanitaire ne s'accéléraient pas immédiatement. Adel Khodr, directrice régionale du Fonds d'urgence internationale des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a déclaré dans un communiqué que la mort de nombreux enfants signalés à Gaza était prévisible et entièrement évitable. Elle a souligné que les Palestiniens ont faim. Ils sont épuisés et traumatisés, tout en mettant en garde contre la situation désastreuse dans le nord de Gaza. Elle a noté qu'environ 16% des enfants présentaient des symptômes de malnutrition en vertu du résultat d'une étude réalisée en janvier. Un ministre israélien d'extrême droite a appelé à supprimer le mois sacré de Ramadan alors que les tensions s'intensifient en Cisjordanie occupée au milieu de la guerre génocidaire de l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Ce commentaire a été fait par le ministre israélien du patrimoine, Amichai Eliyahu, dans une interview accordée à la radio militaire du régime à l'approche du mois sacré de Ramadan qui débutera vers le 10 mars. Le soi-disant « mois de Ramadan doit être anéanti et notre peur de ce mois doit également être anéanti », a dit Eliyahu. Des factions palestiniennes ont annoncé leur soutien total à la campagne mondiale « Tempête du Ramadan », appelant à y participer pour soutenir les Palestiniens alors que le régime d'apartheid israélien poursuit sa guerre barbare contre la bande de Gaza. Les remarques du ministre extrémiste interviennent alors que les derniers rapports de sécurité israéliens indiquent que le régime craint une explosion de la situation en Cisjordanie occupée et à Rotsest pendant le Ramadan en raison de la guerre d'Israël contre Gaza et des restrictions que le régime de Tel Aviv prévoit d'imposer autour de la mosquée Al-Aqsa pendant le mois sacré du jeûne. La mosquée Al-Aqsa est le troisième site le plus sacré de l'islam après la Mecque et Médine, et attire généralement des centaines de milliers de fidèles, en particulier pendant le Ramadan. Le mois dernier, la chaîne israélienne 13 a rapporté que le premier ministre Benjamin Netanyahu avait ordonné des restrictions quant à l'accès des Palestiniens à la mosquée Al-Aqsa pendant le mois de Ramadan. l'accès au lieu saint a déjà été restreint pour les prières, en particulier les prières du vendredi, lorsque la prière collective hebdomadaire a lieu depuis le 7 octobre, après que le régime a lancé son agression militaire contre Gaza. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine.
Thank you.